Et allez, on remet le couvert.
Mais pour l'actu locale,
on se met à découvert.
Bienvenue dans les matinales de Barthas.
Le lundi et le mercredi à partir de 8h30. Des éditos,
des reportages, des interviews
et des chroniques.
Et quelquefois des rediffs.
Ouais.
Les matinales de Radio Barthas
sur le 107 FM.
Possibilité de tout là, oui. Allez, bonjour à toutes et bonjour à tous, bienvenue sur Radio Barthas, bienvenue sur le 107. Nous sommes le mercredi 31 janvier, il est 8h30. Au programme de cette matinale, nous serons avec Siméon Lefebvre, porte-parole de la Confédération Paysanne de Lozère. On reviendra sur les annonces ou les non-annonces d'ailleurs de Gabriela Attal hier. Et sur la suite du mouvement et en deuxième partie d'émission, Léo sera en studio avec Émilie et Céline, deux des créatrices de l'Escape Game sur les perturbateurs endocriniens auxquels vous pourrez jouer ce week-end au Floraco Poly. Il y aura de la musique comme d'hab et on commence par l'édito. C'est parti, vous êtes bien sur Barthas.
On peut être en désaccord. Mais enfin, vu le ramassis de saloperie que je vous ai dégoté là...
Ce n'est que l'édito des Barthas. Je ne comprends pas, j'avoue que j'essaye, mais j'ai du mal. Il y a quelques jours, les députés se sont votés une légère augmentation de leurs frais de mandat. Oh, pas grand-chose, hein, à peine 300 euros. Il y a quelques semaines, les sénateurs n'étaient pas en reste, puisque ce sont 700 euros de plus qu'ils se sont octroyés. Alors attention, hein, ils ne peuvent pas faire n'importe quoi de cet argent. Sont exclus les dépenses électorales, les amendes, les dépenses médicales ou paramédicales, l'achat de bijoux ou de montres, ou encore les abonnements sportifs ou télévisés. Pas de soucis pour les restos et les hôtels, bien sûr. Mais attention, c'est le haut du panier. Croyez pas qu'ils vont au Campanile ou dans un Formule 1. Pas déconner non plus. Et ils ne vont quand même pas manger un sandwich tous les jours. La justification, simplement due à l'augmentation du coût de la vie, à l'inflation. Donc, les agriculteurs agonisent, les profs sont en galère, les fonctionnaires en général, dans le privé, c'est pas mieux. Une bonne moitié du peuple se bat pour manger, mais ceux qui nous gouvernent s'augmentent. On n'est pas bien là ? Oh que si. Un extrait de Isia. Hier mardi, c'était le discours de politique générale du Premier ministre à 1h15 et allez, environ 6 minutes pour les agriculteurs qui s'ajoutent à la dizaine de suppressions de normes nationales de vendredi dernier. Et pour en parler, nous sommes ce matin avec Siméon Lefebvre. Bonjour.
Bonjour Ben, bonjour à tous tes auditeurs.
Porte-parole de la Confédération Paysanne Lozère, merci d'être avec nous. Ça fait un moment qu'on parle des problèmes que rencontrent les paysans, paysannes, agriculteurs, agricultrices. On va parler avec toi de vos revendications, des annonces qui ont été faites, annonces ou pas d'ailleurs, par le Premier ministre, de la suite du mouvement. Déjà qu'on contextualise entre la FNSEA, les JA qui y sont affiliés, la coordination rurale et la Confédération Paysanne, vous avez des grandes différences de vision, de perception. Je trouve qu'on n'en parle pas assez. Au-delà de vos différences dont on va parler dans quelques instants, quel est le socle commun dans vos revendications aujourd'hui ?
Alors, avant de parler des revendications, il y a déjà un socle commun dans le constat que beaucoup d'agriculteurs et d'agricultrices n'arrivent pas à vivre dignement de leur travail, n'arrivent pas à se retirer un revenu de leur activité. Ça c'est un gros problème et qui est pas apparu début 2024. Le constat il est identique chez tous les syndicats. On se dit qu'on peut pas continuer comme ça. Sur nos revendications, nous on pense qu'on a des revendications qui peuvent être portées aussi par les autres syndicats. On a connaissance, conscience de nos différences de point de vue sur l'agriculture, hein. Mais on pense qu'on peut porter ensemble des revendications sur l'arrêt du libre-échange, ouais. qui est une des causes des difficultés actuelles de ce secteur-là. Et on voudrait aussi porter une revendication d'imposer un prix minimum d'entrée pour des produits venant d'autres pays. Mmh. L'arrêt du libre-échange, en fait, là on parle actuellement du Mercosur qui est en cours de négociation. Oui, excuse-moi.
Non, j'acquiesce, on allait en parler tout à l'heure, mais vas-y, je t'écoute attentivement.
D'accord. On parle actuellement du Mercosur, donc traité de libre-échange entre l'Union européenne et l'Amérique du Sud. Mais c'est pas le premier accord qui arrive. Il y a encore un mois, là, au mois de décembre, il y a eu un accord signé entre l'Union européenne et la Nouvelle-Zélande pour, entre autres, un certain tonnage d'agneaux qui arriverait sans taxe sur le marché européen. Il me semble qu'en Union européenne et entre autres en Lozère, on sait faire de l'agneau. Du coup, je vois pas trop quel est l'intérêt de faire venir un agneau de l'autre bout du monde.
C'est sûr.
Et sur l'autre, le problème du libre-échange fait qu'on a des marchandises qui arrivent très très peu chères. Nous, on voit particulièrement au niveau du miel en ce moment, du miel qui arrive du Vietnam, qui arrive d'Ukraine, qui arrive de plein de pays différents à 2 euros le kilo. En France, on ne sait pas faire du miel à moins de 5 euros le kilo sans pour que ça puisse rémunérer l'apiculteur, voire même dans des contextes un peu plus compliqués comme dans les Cévennes, c'est plutôt du 10 euros le kilo. Donc vous avez votre miel à 10 euros qui est mis en concurrence avec un miel qui est à 2 euros. C'est pas possible, ça va faire disparaître des filières, quoi. Donc on demande à ce que, pourquoi pas qu'on importe du miel si on n'arrive pas à être autonome au niveau national, mais que ce miel ne rentre pas à des tarifs aussi bas.
Ouais. Ça fait quelques années que je bosse ici, on va revenir sur tout ça parce que c'est assez complexe et on verra s'il y a des solutions, il y en a, hein, c'est sûr. Mais ça fait quelques années que je bosse ici et j'ai toujours l'impression qu'il y a les bons, les mauvais agriculteurs, qu'il y a entre guillemets les profiteurs du système ou bien les autres laissés pour compte. En tout cas un système inégalitaire, un modèle agricole obsolète, une administration en labyrinthe, bref. Pour des personnes étrangères au milieu agricole, impossible de tout comprendre. Des agriculteurs qui gagnent bien leur vie, d'autres au bord du gouffre. Est-ce qu'il est possible d'expliquer comment est-ce qu'on en est arrivé là ?
Il faut remonter à ce qu'on appelle la révolution verte, hein, après la Seconde Guerre mondiale. Donc il faut se souvenir qu'à la sortie de la Seconde Guerre mondiale, les Français ne mangeaient pas à leur faim. Il y a eu des tickets de rationnement sur l'alimentation encore quelques années après la fin de la guerre. Mmh. On a vécu grâce à des importations d'alimentation des États-Unis pendant quelques temps. Et du coup, il a fallu remettre sur pied l'agriculture française et le choix qui a été fait, c'est de lui faire prendre un tournant industriel. Avec l'arrivée des tracteurs, avec l'arrivée des pesticides et des engrais issus de la pétrochimie. L'enjeu initial, c'était d'arriver à nouveau produire assez de nourriture pour les Français. Mais on a continué sur la lancée et puis on s'est dit, ça marche, on arrive à exploser les scores grâce à cette mécanisation et à cette chimie. On va créer une agriculture d'exportation. Mmh. Et du coup, le but, c'était que l'agriculture française participe à la balance commerciale et qu'on exporte nos productions pour faire rentrer de l'argent sur le territoire. Cette révolution verte, elle s'est accompagnée aussi d'une diminution énorme du nombre de paysans. D'ailleurs, d'un point de vue sémantique, c'était des paysans à l'époque, puis qui sont devenus agriculteurs, puis qui sont devenus exploitants agricoles. Donc certains abandonnés parce qu'ils étaient sur des trop petites structures et leur ferme était reprise par le voisin avec aussi tout ce qui était les politiques de remembrement, donc faire des plus grandes parcelles qui soient mécanisables. Et tout ça, enfin voilà, dans une idée d'économie d'échelle et de spécialisation. Voilà, on n'était plus chacun avec un petit peu de céréales, un petit peu de prairies, quelques bêtes, sur une agriculture d'autosuffisance et avec un petit peu de vente à l'extérieur. On est passé sur une agriculture où on a une production. On est éleveur de brebis, on est producteur de porc, on est céréalier, etc. Et pour mettre ça sur un marché national, voire international.
Alors, le Premier ministre, à coup de punchline hier, a fait quelques annonces, à vrai dire très peu. La première, moins d'administration, plus de temps dans les champs. L'administration française, c'est compliqué aujourd'hui pour les agriculteurs, paysans, paysannes.
C'est sûr que quand on fait ce métier de paysan, c'est a priori pas par amour de la paperasse, mais on se rend compte assez vite que c'est un poste de travail obligé, qu'on délaisse souvent, enfin voilà, il y a toute la journée de travail, s'occuper des bêtes, s'occuper des diverses productions, et puis quand on rentre le soir et qu'on est claqué, ben, on se dit « Ah merde, j'ai encore tel et tel papier à faire, telle déclaration, telle demande d'autorisation ». C'est quelque chose qui effectivement peut peser sur la vie de la ferme. Après, c'est une... des tracasseries administratives qui ont une raison d'être à la base. Hein. Enfin, je prends l'exemple par exemple des primes de la politique agricole commune. Les fermes touchent de l'argent public, c'est tout à fait logique qu'il y ait en contrepartie des dossiers à monter pour toucher ces primes-là. Et des contrôles potentiels pour justifier de la légitimité de toucher ces primes-là. Mais c'est vrai que c'est un poste qui vite nous bouffe énormément de temps et nous prend de la place dans le cerveau, quoi. C'est une sacrée charge mentale, en fait, c'est pas prasse. Ouais.
Alors tu l'as abordé, hein, la PAC, la politique agricole commune, Attal a annoncé qu'elle serait versée d'ici mars à tous les agriculteurs, agricultrices. Concrètement, ça veut dire que c'est difficile de l'avoir, qu'en général, elle peut être versée genre un an après la demande, ou comment ça se passe concrètement pour qu'on comprenne ?
En fait, il y a des situations très diverses, suivant les départements, suivant les fermes. Il y a des primes qui tombent plus ou moins tôt, en général à l'automne. L'essentiel est en général payé avant décembre pour une déclaration qui a été faite au 15 mai de l'année. Mais il y a certaines primes, par exemple l'aide à la conversion à l'agriculture biologique, ou certains cas, par exemple des cas d'installation de jeunes agriculteurs où les paiements arrivent sur le tard, et voire des fois où l'État se fait un peu déborder par les dossiers. Et on a un exemple très, très parlant, alors pas forcément en Lozère, mais dans d'autres régions en France actuellement, où beaucoup d'agriculteurs se sont inscrits dans une démarche de changement agroécologique. On souscrit à des mesures agro-environnementales et climatiques, donc pour modifier leur système, mais en ayant du coup une aide pour cette modification. Et en fait, il y a tellement d'agriculteurs qui sont inscrits dans cette démarche-là que l'État se rend compte qu'il n'avait pas provisionné assez d'argent là-dessus et qu'il traîne à payer et puis qu'il ne paye pas au niveau qui était convenu à la base. Voilà. Donc c'est un vrai souci, parce que justement sur ces agriculteurs qui ont envie de mieux travailler, de faire une transition agroécologique, en fait, ils sont pas suivis financièrement par l'État là-dessus, quoi.
Alors hier, il l'a abordé hein, aussi, hein, l'aide aux jeunes exploitants, l'aide à l'installation. Parfois, il y a un an d'attente, hein, c'est ce qu'il a dit. Mais si ça marche pas pour l'instant, comment est-ce qu'on peut améliorer tout ça? On a l'impression que c'est un peu, bon, ok, un effet d'annonce, mais que ça va pas pouvoir forcément avancer.
Ouais, c'est justement hyper problématique pour des jeunes qui sont dans leur première année d'installation et où du coup l'aide à l'installation elle sert entre autres à créer une trésorerie pour l'entreprise qu'on crée ou qu'on reprend. Mm-hmm. Parce que sinon il n'y a pas, enfin on gagne pas forcément de l'argent avec notre production dès la première semaine de travail. Donc c'est hyper important que les aides à l'installation elles tombent le plus rapidement possible une fois qu'on s'installe. Comment faire pour que ça tombe plus rapidement, que les jeunes installés soient plus payés? Ça, j'ai envie de dire, c'est pas aux agriculteurs de trouver la solution. Hein. Nous, on en fait le constat, mais c'est les retards de paiement, ils sont du fait de l'administration. C'est à elle de se prendre en main et d'arriver à honorer ses engagements. Mmh.
Il a également parlé de la loi Egalim. Hein. Alors, ici à Florac, j'avais eu la chance de rencontrer le cuisinier du collège de Florac qui disait que c'était une très bonne chose. Effectivement, sur le papier, c'est pas mal. Donc, il a annoncé une centaine de créations de postes pour augmenter les amendes envers les grandes surfaces qui ne joueraient pas le jeu et ne paieraient pas les agriculteurs, agricultrices au prix auquel ils pourraient vivre de leur production. Est-ce que ça, c'est une bonne nouvelle? Et d'ailleurs, l'argent de ces amendes en fait reviendraient directement aux exploitants et exploitantes. Qu'est-ce que tu en penses?
Ça c'est plutôt une bonne nouvelle, mais en fait ça pointe du doigt la difficulté de notre profession. C'est que l'agriculteur qui est inscrit dans une filière longue qui va vendre ses produits pour potentiellement des transformateurs et qui après vont vendre en grande surface. Alors c'est pas forcément énormément le cas en Lozère, hein. Enfin, en tout cas sur le sud du département, il y a beaucoup d'agriculteurs qui se sont inscrits dans des filières courtes, dans de la vente directe, qui sont pas concernés par ces abus des grandes surfaces. Mais en fait le souci pour les agriculteurs qui sont dans des filières longues, c'est qu'ils se retrouvent pris en étau au sein de cette filière entre l'amont et l'aval. Donc l'amont, ça va être le vendeur de tracteurs, le vendeur d'engrais, voilà, tous les fournisseurs de matériaux d'aliments nécessaires à la production. Mmh. Et l'aval, du coup, le transformateur, les grandes marques, les grandes surfaces, etc. Et ils se retrouvent donc un peu le plus petit, enfin, à jouer dans la cour des grands et à en fait à servir de variable d'ajustement quand il faut augmenter les marges, quand il faut réduire les prix, ben c'est sur le prix d'achat à l'agriculteur que ça va se jouer, avec du coup des fois des productions achetées en dessous du coût de revient. Mais sans même songer à penser aux revenus du paysan. Donc c'est-à-dire que la production va être le coût d'achat de la production va même pas couvrir le coût des intrants nécessaires à cette production et encore moins le travail de l'agriculteur. Donc du coup ça on est dans une situation inacceptable à ce niveau-là.
Il a également dit, alors là j'avoue que ça commence à être un peu technique évidemment pour ceux et celles dont moi qui ne sont pas du milieu, il a annoncé 50% de plus de remboursement sur le TICPE, soit 750 € pour 7000 litres de GNR. Ça veut dire quoi tout ça?
Alors, Moi, je suis pas hyper au fait de toutes ces taxes sur le GNR, parce que dans mon système, on utilise tellement peu le tracteur qu'on met du gasoil normal ou de l'huile de friture dedans, et ça suffit largement à couvrir nos besoins. Après, nous, sur le GNR, donc le gasoil non routier, qui est un gasoil qui est détaxé par rapport au gasoil que tout un chacun peut mettre dans son break familial. Il y avait effectivement un souci d'avoir du gasoil, donc une énergie fossile à pas cher, à l'heure du réchauffement climatique, et enfin au moment où il faut qu'on fasse une transition énergétique. Nous, donc c'est l'annonce de taxe sur le GNR qui a un peu mis le feu aux poudres et lancé la mobilisation qu'on a actuellement. Nous, à la Confédération Paysanne, on avait déjà fait une proposition, et on continue à la tenir. De dire qu'il faudrait une taxation progressive sur ce GNR pour avoir un premier volume non taxé, pour pas mettre en difficulté des petites exploitations qui n'ont pas du tout les moyens de faire autrement et qui arrivent déjà pas à avoir un revenu. Mais il faut pas détaxer tout le GNR, parce que sinon l'abondance d'une énergie peu chère va pas du tout nous pousser à de la sobriété. Donc il faudrait avoir, tout comme on a un impôt sur le revenu progressif, avoir une taxation sur le GNR progressive. Alors faut voir quels seraient les volumes, mais mettons que les 5 premiers mètres cubes, les 5000 premiers litres seraient pas du tout taxés, les 10 000 suivants le seraient un petit peu, et puis les 15 000 suivants le seraient plus, etc. Pour assurer un peu un approvisionnement en GNR moins cher pour les utilisations de base, quoi, nécessaires, mais ne pas pousser à la consommation sans limite, parce qu'il faut absolument qu'on arrive à être plus économe au niveau de la consommation de pétrole.
Et ça, c'est ce qui fait peut-être la différence entre les différents syndicats agricoles, je suppose.
À ma connaissance, on est le seul syndicat à porter cette revendication-là. Alors, on nous taxe un peu d'écolo à la Confédération Paysanne. Je ne sais pas si on est écolo, mais en tout cas, on a envie de prendre soin de notre outil de travail. Notre outil de travail, c'est notre environnement. Et du coup, en prendre soin, c'est aussi limiter les effets du changement climatique, parce qu'on est les premiers à en subir les effets, avec les sécheresses, avec les tempêtes, avec tout ce qu'on connaît. C'est, pour moi, ça tombe sous le sens qu'il faut qu'on soit aussi des acteurs
de la transition
écologique, et en faisant une transition agroécologique. Ça nous semble très important, tout comme quand j'entends les revendications d'arrêter de mettre des normes sur l'arrachage de haies, sur le curage de cours d'eau, sur etc. etc. Alors, il faut qu'on simplifie les normes, il faut qu'on les rende plus lisibles, mais on a besoin d'une réglementation de garde-fou, parce que c'est notre outil de travail, il faut qu'on le protège, quoi.
Ouais, il y a dans les 10 normes qu'il a proposé, la suppression des 10 normes qu'il a proposé la semaine dernière, il y a celle d'arrêter l'obligation de renaturer 10% des terres agricoles. Possible, pas possible?
Alors, il y a une tendance actuellement qui est un peu dangereuse vis-à-vis de la renaturation. Enfin, c'est une idéologie qu'on voit arriver qui va de pair avec une financiarisation justement de l'environnement. de dire bon voilà, on a un peu trop pourri tout, il faudrait qu'on sorte certaines. Alors la Lozère fait quand même un peu exception par rapport à des départements, enfin on serait dans la bosse, ce serait un contexte tout à fait différent, mais dire voilà, l'agriculture a un impact sur l'environnement, donc il faut qu'on sorte une certaine proportion de surface de l'agriculture pour en faire des zones complètement naturelles. Moi, j'aimerais plutôt qu'on dise comment on peut mieux travailler avec la nature sur les fermes, plutôt que de dire on sépare la nature notre environnement en trois milieux distincts, quoi. Il y a d'une part les villes où on habite, d'autre part les champs où on cultive et où on cultive façon agro-industrie, et en troisième lieu, une nature qui est sans activité humaine et qui du coup est vierge et belle, parce que c'est l'essence de la nature. Voilà. Ça, c'est un problème de sortir l'homme, de considérer l'homme comme ne faisant pas partie de la nature. C'est pour moi une erreur fondamentale. Il faut d'abord et avant tout que l'humain se rende compte qu'il fait partie intégrante de la nature et qu'il en prenne plus soin, y compris dans ses activités. Et particulièrement nous sur le pastoralisme, on le voit, enfin plus au niveau de la Confédération paysanne dans les Alpes et dans les Pyrénées. Pour l'instant, le Massif central n'est pas trop touché, mais on voit une tendance à vouloir sortir les troupeaux de certaines zones pour que ce soit la nature vierge fantasmée, ce que ça n'a jamais été. De tout temps, les hommes ont utilisé ces zones-là pour produire leur nourriture. Mais voilà, c'est sortir les hommes et leurs troupeaux de ces lieux-là. Et puis après, vu qu'il y a moins de surface, on y va un peu plus intensif ailleurs, quoi. Donc à la Confédération paysanne, on est très très méfiant de cette renaturation. Nous, on aimerait pouvoir cultiver la nature, la respecter sur nos fermes, et pas avoir à dire il faut prévoir sur nos fermes une certaine surface de nature, et puis le reste on peut y aller comme des bourrins, quoi.
Alors, le mouvement va continuer. Donc, on a bien compris, pour résumer, donc dans les revendications, il y a la non-signature du Mercosur, il y a l'amélioration de la loi Egalim, il y a la simplification des démarches administratives, il y a simplement le fait que les agriculteurs et agricultrices soient payés au prix auquel ils produisent, en tout cas qu'ils aient de quoi vivre. Est-ce que j'ai bien résumé ou est-ce qu'il manque des choses ?
Non, t'as bien résumé sur les revendications. Après, plus globalement, je me rends compte qu'il y a un vrai conflit de vision entre une agriculture paysanne et une agriculture agro-industrielle, qui sont pas forcément conciliables. Et en fait, l'agriculture industrielle, par essence, elle est là pour faire du volume. Volumes qui peuvent servir justement à être exportés de notre territoire, donc l'agriculture exportatrice dont je parlais tout à l'heure. Mais ces échanges transnationaux, c'est délétère pour nous, parce que ça fait, alors on parle de l'agneau néo-zélandais qui n'est pas du tout produit dans les mêmes conditions là-bas, qui vient concurrencer le nôtre ici, mais nous, nos productions à l'export, elles viennent aussi concurrencer des productions de paysans ailleurs. L'agriculture paysanne, en fait, elle peut pas vraiment cohabiter avec l'agriculture agro-industrielle, parce que l'agriculture agro-industrielle la détruit. On a, par nos exportations de céréales, on a détruit la paysannerie d'Afrique de l'Ouest, par exemple, et en leur disant, vous n'arrivez plus à survivre en tant que paysan là-bas, devenez producteur de coton à grande échelle, producteur de cacao, etc. Nous, on se charge de vous fournir de quoi manger, quoi. Et ça, c'est proprement scandaleux de détruire le travail de millions, enfin même de milliards de personnes, juste pour les intérêts financiers de quelques-uns.
Ouais, changer de système, ça va pas être évident si j'ai bien compris. Alors le mouvement a donc continué. La Confédération paysanne a appelé naturellement à bloquer des entrepôts de grandes surfaces. Les blocages vont évidemment continuer. Ici en Lozère, comment ça va se passer ? Est-ce que vous allez vous réunir entre syndicats concrètement ? Quid de la Lozère ?
Alors on n'a pas de centrale d'achat à bloquer en Lozère.
Oui, c'est sûr.
donc on ne va pas le faire. On n'a rien de programmé là tout de suite. Lundi, on a fait une opération escargot à Florac pour pas juste pour par plaisir d'emmerder les automobilistes, mais c'était pour essayer de se faire entendre, et puis c'était l'occasion de discuter avec les gens au rond-point. Là, on prenait 2, 3, 5 minutes avec chaque voiture pour exposer notre problématique. J'étais agréablement surpris de voir le bon accueil d'une grande majorité des automobilistes. Je peux pas vous annoncer les actions qui vont suivre, mais oui, il n'y a pas de raison pour l'instant, en tout cas, qu'on s'arrête là-dessus.
En tout cas, nous, on va suivre tout ça avec attention, et puis on verra. Espérons que pour paysans, paysannes, agriculteurs, agricultrices, ça évolue de la bonne manière. Merci beaucoup, Siméon.
Allez, on lâche rien. Bonne journée, Ben.
Bon courage. Je rappelle que tu es porte-parole de la Confédération paysanne ici en Lozère. Bon courage à tout le monde et à très vite. Et voilà, évidemment, on suivra ça avec attention. Et dans un instant, on parle de l'escape game sur les perturbateurs endocriniens. C'est Léo qui va nous rejoindre et il va accueillir Céline et Émilie. On écoute d'abord... Qu'est-ce que j'ai mis ? Ah, Camille, je ne mâche pas mes mots. Vous êtes bien sur Barthas.
Je ne mâche pas mes mots. Je ne mâche pas mes mots. S'il m'arrive d'être foudroyé par l'éclair au chocolat, très souvent je me raisonne avant de replonger mon doigt dans la marmelade pomme préparée à cappella sur le piano. La seule vue du miel suffit à clarifier ma voix. L'aspartame, ça m'émerde et tu le corrigeras pas. La colère de voir sous la princesse un petit poids. OGMO.
Camille, je ne mâche pas mes mots. Elles sont venues enregistrer hier, Céline et Émilie, pour l'Escape Game sur les perturbateurs endocriniens. C'est Léo qui a fait cette interview. On leur laisse la parole.
Aujourd'hui, je reçois en studio une partie de l'équipe à l'origine de la création de l'Escape Game, Sauf qui peut, qui est remontée de nombreuses fois à mes oreilles depuis que je suis dans le coin. Sauf qui peut, avec peu écrit en lettres P.E pour signifier perturbateur endocrinien. C'est un projet qui fait suite au long travail du réseau d'éducation à l'environnement de Lozère autour de la sensibilisation de la population sur le sujet des perturbateurs endocriniens. Pour une fois, je vais vous laisser vous présenter. Dites-moi donc du coup qui êtes-vous, d'où venez-vous et comment est-ce que vous avez rejoint ce projet ?
Alors moi je m'appelle Céline Duchesne, et j'ai rejoint ce projet parce que il y a quelques années, je dirais peut-être 3 ou 4, il y a eu une formation initiale sur les perturbateurs endocriniens donnée par Anna et Laurane, dans laquelle ils avaient besoin de travailleurs sociaux. Et à l'époque j'étais animatrice du GEM et donc j'étais invitée à cette formation à titre de ma fonction. Et puis suite à cette formation, il y a eu des idées, et puis suite à ces idées, il y a eu des projets, et puis suite à ces projets, il y a eu des appels de motivation. Et moi, j'ai dit, bah ouais, je veux bien faire des trucs avec vous, c'est chouette, c'est un sujet qui me parle bien. Et donc, de fil en aiguille, j'en suis arrivée à passer ma vie autour des perturbateurs endocriniens.
Et tu as du coup quel rôle au sein du projet ?
Eh bien, j'étais co-conceptrice de l'Escape Game avec Laurent Solero et Émilie, que voici. Et ces derniers mois, animatrice de cet Escape Game de manière plus ou moins intensive en fonction des périodes.
Toi, Émilie, tu as rejoint naturellement le projet par le réel.
Exact. Donc du coup, moi, je suis coordinatrice de projet. Alors, on a un peu créé des pôles. Moi, je suis plutôt sur tout ce qui est santé, environnement, alimentation. Et donc, moi, je suis arrivée en cours. Hein, l'Escape Game était déjà en création quand j'ai rejoint l'équipe il y a 2 ans, maintenant, quasiment. Et c'était Coralie Atia au départ qui coordonnait ça avec Laurane. Et donc j'ai juste accompagné au départ Laurent et Céline pour un peu structurer l'affaire parce qu'ils avaient plein d'idées et tout était sur le papier. Et il y avait encore des petits blocages. Et puis j'ai eu la chance de pouvoir moi aussi donner mes idées. Et puis voilà, on a fait équipe autour de ça et ça me permet aujourd'hui de mieux connaître le jeu et du coup de pouvoir mieux le représenter aussi et pouvoir mieux en parler. De l'avoir intégré. En tout cas, c'était une belle aventure de conception. Faut se creuser la tête. Hein.
Du coup, le réel s'associe avec pas mal de partenaires et de gens pour faire une équipe sur l'Escape Game. C'est quoi l'équipe ? C'est qui l'équipe ? Est-ce qu'il y a trop de gens pour les citer ?
On aimerait
bientôt.
Ouais, c'est ça. Non, on aimerait. C'est vrai que du coup au départ, donc Céline, Laurent, il y avait Martin aussi qui a filé la patte, Christelle aussi, Pierre D. Et puis au réel, globalement, il y avait que moi qui suivais le projet. Et là, comme disait Céline, ces derniers temps, ça a été assez intensif. C'était surtout elle qui a animé parce qu'on a un dispositif pédagogique pour ça qui est financé. Enfin, comme le jeu, hein, que ce soit la conception jusqu'à la diffusion, on a eu un financement de l'Agence régionale de santé et de la région Occitanie dans le cadre ville et territoire sans perturbateurs endocriniens et le département aussi sur du fonctionnement. Et du coup, c'est vrai que là, à nous deux, c'était un peu... enfin, on est en manque, quoi. Donc, en fait, on est en train d'ouvrir une formation qu'on monte avec le Grain Occitanie pour justement avoir un peu d'autres animateurs et pouvoir aller sur un peu partout sur le territoire. Parce que Céline s'est retrouvée à devoir faire du camping en Nord-Lozère pendant 2-3 semaines.
Pour animer ce magnifique jeu.
Et du coup, il serait plus forcément porté que par le réel, mais par plein d'autres gens qui seraient formés à le faire derrière.
Exactement. Après, nous, ce qui est pas mal, c'est que nous, on fait des demandes, on fait des réponses dans le cadre d'appels à projets. Ça permet d'avoir des financements et du coup de proposer à des structures une animation gratuite. Là, quand Céline intervient dans les lycées, ça leur coûte rien, si ce n'est de la gentillesse et d'ouvrir leurs portes et nous faire confiance. Mais sinon, financièrement, ça leur coûte rien et c'est un peu ce qu'on essaye de faire. C'est que c'est un jeu, si on le propose gratuitement, bah forcément, il est bien accueilli. Mais après, voilà, les animateurs, enfin Céline aujourd'hui est autonome sur le projet. Si elle a un prestataire qui effectivement souhaiterait faire jouer le jeu, elle peut l'animer et du coup faire, rémunérer sa prestation.
Et comment on fait du coup pour créer un escape game ? Faut sortir l'idée, créer un escape game, c'est un peu fou dit comme ça. Mais est-ce que c'est du coup un casse-tête dans un casse-tête dans un casse-tête ?
Alors, en fait, à l'issue de cette première formation dont je parlais tout à l'heure, on a eu une petite séquence de ouvrez les vannes de l'imaginaire et dites-nous ce que vous pourriez rêver de plus fou. Le challenge étant, on a des informations qui sont pas forcément très faciles à diffuser parce qu'elles sont pas très confortables, qu'elles remettent en question les habitudes de vie de chacun, la société dans laquelle on vit, tout ça. Donc, il y a des enjeux importants et il y a des freins importants. Qu'est-ce qu'on pourrait trouver comme biais pour arriver à amener ça de manière légère et acceptable, entendable ? Et donc, on a proposé plein de choses, dont cette idée d'escape. L'idée, c'est de mettre du jeu dans le sérieux et du sérieux dans le jeu. Et quand on a proposé ça, on ne pensait pas qu'on le ferait. Hein. On proposait des idées folles comme ça. Et en fait, en effet, on a relevé ce défi-là. En fait, ça a pris un temps fou. Hein. Ça nous a pris une année de conception, de travail, de réflexion.
Il a fallu se reformer derrière pour comment créer une énigme, comment créer un escape game.
Alors, c'est de la formation un peu continue. Hein. Il ne faut pas cesser de creuser. Et après, donc, dans le l'équipe de départ, il y avait Laurent Solero qui lui est un grand joueur, qui était plutôt sur le pôle comment on va créer du jeu, moi qui était plutôt sur le pôle qu'est-ce qu'un perturbateur endocrinien et sur quoi on peut s'appuyer, quels sont les messages scientifiques qu'on va faire passer. Et au début on a réfléchi comme ça aux enjeux, aux messages, aux mécaniques possibles, on les a tournés dans un sens, dans un autre on s'est fait des résidences où on passait plusieurs jours à essayer des choses, on a imaginé tricoter, détricoter. Après, Emily est arrivée avec sa structure. Parce que nous, on est un peu comme ça, des artistes, comme ça, là, avec des idées, mais pas très structurées. Et Emily a dit, ne vous inquiétez pas, moi, je vais faire l'ossature. Et donc, ça a été génial. Parce que d'un coup, les choses se sont mises en ordre, clac, 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 tout ce qu'on avait pensé a trouvé sa place, son arborescence, tout ça. Et à tous les trois, on a du coup fait beaucoup d'allers-retours. Hein. Ça n'a pas du tout été linéaire comme travail. Ça a été hyper circulaire. On a fait le tour une fois, deux fois, trois fois, quatre fois, essayer des trucs. On l'a fait essayer à des copains, qu'on dit « Ah oui, ça marche pas très bien. » Parce qu'il fallait que les messages soient clairs et pertinents et justes. Donc étayés par des sources quand même scientifiques non questionnables. Enfin non, comment on pourrait dire non.
Non, ouais, c'est ça. C'est
pas voilà, sûr quoi. Il fallait pas qu'on dise de conneries. Il fallait qu'on soit clair sûr de ce qu'on disait. Il fallait que les mécaniques de jeu soient diversifiées, intéressantes et suffisamment ludiques pour que les gens s'amusent. Et comme il y a plusieurs équipes, il fallait aussi que les choses aillent sur le même tempo, que tout le monde finisse à peu près en même temps. Voilà. Du coup, tout ça, c'est des ajustements et des essais. Des tentatives, des échecs, des retentatives. Et finalement, au bout de cette année de tricotage, on a fini par faire quelque chose qui tient la route et qui est équilibré. Maintenant, on a plein de recul et de retour. Hein. On l'a animé des dizaines de fois avec des jeunes, avec des moins jeunes, beaucoup d'ados, beaucoup de jeunes adultes, beaucoup de familles d'adultes. Et donc, on a des retours assez variés, assez représentatifs quand même de l'ensemble de la population à qui on s'adresse. Et il s'avère que nous sommes arrivés à un bon équilibre entre les informations véhiculées, la dynamique de jeu, qui est une vraie dynamique de jeu, dans laquelle les gens s'amusent pour de vrai. Voilà, je crois que ces deux dimensions sont atteintes.
Ouais, et c'est vrai, juste pour préciser, parce que tu parlais de... on est allé auprès de différents publics. C'est vrai qu'on a fait ça dans des milieux scolaires, mais pas que. On était aussi dans des événements grand public. Et du coup, enfin voilà, on n'attrape pas les gens de la même façon quand ils sont, entre guillemets, captifs, comme on aime bien les appeler, c'est un joli terme, dans une classe et qu'ils ont deux heures de créneau et en fait, ils n'ont pas le choix, versus dans un événement où les gens sont de passage et du coup, il faut qu'ils s'arrêtent et qui viennent jouer pendant deux heures. Et il y avait ça aussi à cœur de le rendre chiadé, c'est un terme que j'ai appris ici.
Attractif, ça veut dire.
Non, mais c'est vrai qu'il en jette. On a fait appel à Christian Biujou pour ça, c'est un graphiste, où on a vraiment joué sur cet aspect vintage. Il est assez flashy. Enfin voilà, visuellement, il donne envie. Et tout ça, ça faisait partie aussi de la réflexion, enfin dans la conception. Et qu'est-ce qu'on met aussi pour qu'il y ait l'effet waouh. Je me souviendrai toujours de ce terme qu'ils utilisaient tout le temps, Laurent et Céline. C'est, mais là, il faut qu'il y ait un effet waouh. Il faut vraiment que sur cette énigme-là, ils se disent, oh pétard, c'est génial. Et ça y est, on l'a tout le temps. On a ces retours sur chaque énigme. Après, on pourra peut-être présenter un peu comment le jeu se structure. Mais voilà, il y a vraiment cet effet waouh qui a été une recherche menée par les concepteurs. Et du coup, adaptée en fonction. Pour revenir sur le public, adapté en fonction du public, parce qu'on ne s'adresse pas voilà, de la même façon aussi. On est intervenu auprès de futurs professionnels, travailleurs sociaux et en santé. Il y a des endroits où il faut aller un peu plus loin en termes d'infos et il faut que le jeu puisse être adapté à une large tranche d'âge. Quoi.
C'était une de mes questions plus tard. C'est quoi le public cible de l'Escape Game? Parce que j'ai vu que c'était entre 8 et 30 ans dans les tables d'infos, c'est assez large.
En fait, tout humain bénéficierait à savoir ce qu'est un perturbateur endocrinien. Tout humain qui vit dans notre société aurait intérêt à savoir comment potentiellement prendre des dispositions pour s'en protéger. Donc la cible, elle est totalement large. Après, ce qu'on s'est rendu compte en faisant tourner ce jeu, c'est que en plus, ça on l'avait pas vraiment anticipé, mais on l'a réfléchi en continu. En plus, il est tout à fait modulable, c'est-à-dire qu'on le module, on l'adapte et on arrive à l'adapter à chacun des niveaux de maturité, de capacité de compréhension, d'écoute, d'acceptation. Donc, d'une forme au départ pensée pour être aboutie, on arrive à plein de formes de propositions en fonction de à qui on s'adresse, en sachant qu'il y a le jeu, mais il y a aussi tout le débat et la réflexion qui suivent le jeu. Et quand on est avec des étudiants infirmiers ou des étudiants en BTS GPN, on peut aller beaucoup plus loin au niveau de ce qu'on a à échanger, des questions, des réponses. Et là, c'est de... Voilà, en fait, le jeu est un début, un support de communication sur ces sujets-là, qui sont des sujets vastes d'environnement et de santé. Hein.
Et surtout que pour eux, il y a une responsabilité, surtout sur des publics comme ça, pro, qui eux-mêmes vont être en contact de public et donc véhiculer ce qu'ils ont pu découvrir sur les PE. On leur met un pied de façon ludique avec l'escape game, mais effectivement, derrière, c'est comment dans leur métier, ils peuvent se saisir de cette thématique et aussi infuser sur le sujet. Alors, c'est vrai, quand on est auprès des lycéens ou du grand public, c'est vraiment nous, dans notre quotidien, qu'est-ce qu'on peut faire pour limiter notre exposition.
J'ai les personnes qui étaient autour de moi qui me parlaient du coup que vous avez fait l'escape game, tout avait un point en commun, c'est qu'elles me disaient bah du coup j'ai arrêté de prendre des gobelets en plastique, j'ai arrêté ceci, j'ai arrêté cela, et pourquoi vous avez arrêté? Bah on a fait l'escape game, le perturbateur endocrinien, et on a arrêté après quoi.
Merci Léo, c'est bon d'entendre ça.
Bah, c'est des retours que
ça,
j'ai
entendu. Ça c'est du retour concret, c'est cool.
Mais du coup, pour qu'on puisse bien se transporter dans l'univers de l'escape game, est-ce que vous pouvez nous le décrire comme si on était en plein, comme si moi j'arrivais là, j'arrivais, j'étais dedans, je faisais partie d'une équipe. Qu'est-ce qu'il y a autour de moi? Comment ça se présente?
Bonjour, vous êtes en 2070. Vous êtes dans un monde qui bientôt arrive sur le terme de son expansion. Et il va falloir que, potentiellement en 2020, l'époque dans laquelle vous vivez, vous puissiez résoudre des énigmes, accomplir, terminer le travail d'un journaliste scientifique et
d'une chercheuse
qui ont à l'époque commencé à explorer cette question, qui ont commencé à rédiger un rapport pour le ministre de la Santé et qui ont été interrompus, qui ont dû se cacher, qui ont dû crypter leurs recherches parce que ça mettait trop à mal la société dans laquelle ils vivaient. Aujourd'hui, en 2070, vous êtes en capacité de revenir sur ces découvertes, de les poursuivre, de les aboutir et au final d'écrire un rapport pour au ministre de la Santé pour qu'il puisse prendre des dispositions pour préserver l'humanité.
Et du coup, qu'est-ce qu'il y a autour de moi? Il y a des tables, des pièces, des...
Autour de vous, il y a des images, il y a la reconstitution d'un appartement avec 6 pièces, une cuisine, une salle de bain, une chambre, un bureau, des kakémonos avec des images qui ont été fabriquées par le graphiste dont parlait Émilie tout à l'heure. Des objets posés sur la table, des couleurs. Sur chaque table, il y a évidemment, enfin sur chaque espace de jeu, il y a des indices dissimulés qu'il va falloir trouver, qu'il va falloir mettre en relation. Il va falloir deviner de quoi on vous parle, ce qu'on attend de vous, mettre en lien les éléments pour arriver à résoudre l'énigme en question.
Est-ce que je suis tout seul? Est-ce que je suis en équipe avec d'autres personnes? Combien on est sur dans la même pièce?
Il y a 3 équipes dans cette pièce. Dans chaque équipe, il y a minimum 3 personnes, maximum 5 personnes. Il y a 6 pièces et 3 équipes. Donc chaque équipe devra explorer 2 des pièces de cet appartement. Et quand ces 2 pièces auront été visitées et résolues, les 3 équipes aboutiront à la dernière étape, qui est une étape coopérative, collaborative, qu'on ne peut pas totalement vous dévoiler, car sinon nous enlevons le mystère de ces jeux, hein, n'est-ce pas? Mais dans laquelle, ensemble, vous allez aller au bout de cette mission. Et cette mission, c'est de devenir un ambassadeur en vie meilleure et de pouvoir œuvrer pour on a quand même le parti de pas mettre trop de responsabilités sur les épaules des gens qui participent. Ok, c'est pour ça que notre propos, il est pas péremptoire. On dit pas aux gens, il va falloir faire ceci, ceci, cela. On dit pas aux gens, le monde est en péril et vous êtes les seuls capables de le sauver. on dit il y a des choses à faire, potentiellement vous allez participer et être un élément qui va œuvrer pour du meilleur.
Pour être acteur, ouais. De toute façon, enfin, nous, c'est aussi nos valeurs dans le réseau d'éducation à l'environnement. On est là pour informer. Et c'est surtout le rôle de ce jeu, c'est d'informer où il se trouve dans notre quotidien. Et en fait, le côté immersif du jeu, enfin, on a plein de gens qui sont dans la salle de bain qui disent « Oh pétard, j'ai ce produit dans ma salle de bain !» Ou on est dans la cuisine « Oh la vache, mais moi aussi, je mange des Pringles !» Bon, voilà. Et du coup, ça permet de se projeter tout de suite dans son quotidien et de concrètement se dire qu'est-ce que je peux faire parce qu'effectivement il y a une partie découverte du jeu où on retrouve où les PE, les perturbateurs endocriniens sont, mais après on a vite fait aussi qu'est-ce qu'on peut faire, parce que c'est aussi ça l'enjeu.
Et on prend quand même le temps d'expliquer comment ils marchent, hein. Qu'est-ce qu'ils viennent faire dans notre corps, oui. Comment ça fonctionne, qu'est-ce que ça veut dire, quel est le danger des perturbateurs endocriniens.
Mais voilà, jamais de culpabilité, comme tu disais, on sait pas tout en plus, c'est un sujet qui est très complexe. En tout cas, on transmet ce qu'on sait et après on fait appel à l'esprit critique des gens et être en capacité de prendre une information, de la retourner. Et cette personne, si elle a enlevé ses gobelets, c'est parce que peut-être qu'il y avait quelque chose qu'elle a considéré et qu'il a marqué, mais c'est pas forcément la solution. Ça peut être celle-là pour elle, mais pour quelqu'un d'autre, ça sera peut-être complètement autre chose, quoi.
Est-ce qu'on peut échouer à notre mission dans l'escape game?
Non, nous ne sommes pas comme ça. On n'a pas du tout envie de mettre les gens dans des postures d'échec. Et donc l'idée, c'est aussi ce qu'on dit, c'est un escape game, mais c'est un escape game pédagogique. Notre but, c'est quand même bien sûr que les gens s'amusent, mais surtout qu'ils en ressortent grandis, en termes d'information en tout cas. Et du coup, on accompagne le jeu, hein. C'est une animation hyperactive en fait. Donc on accompagne pour que chaque équipe arrive à trouver ce qu'on lui demande. C'est très variable en fait les réactions des équipes et du coup c'est hyper important pour nous d'être vraiment présente et d'accompagner la résolution, et tout le monde finit toujours par y arriver, bien sûr.
Et du coup, votre rôle d'animatrice est là pour créer une histoire, créer toute l'histoire autour de Escape Game, ou il est juste là pour donner des petits tips, des petits coups de main?
Les deux, mon capitaine.
Les deux.
Nous mettons une ambiance particulière, nous accompagnons les équipes de manière personnalisée, et puis surtout, on anime le débat derrière et l'apport d'informations.
Mais c'est une question qu'on aimerait un peu pousser, là, cette histoire du maître du jeu. Bon, voilà, on a eu des financements là, pour le concevoir, il tient la route, et on l'anime, mais là, on a fait une autre demande de subvention pour pouvoir aller un peu plus loin, et du coup, dans cette histoire de maître du jeu, voilà, pourquoi pas arriver déguisé. Pourquoi pas, enfin, vraiment incarner le rôle. Mais oui, globalement, le maître du jeu est indispensable dans un escape game. Enfin, pour ceux qui en ont déjà vécu, il y a toujours le coup de pouce. Et on a regardé où est-ce que le maître du jeu pouvait... chaque énigme, à chaque fois, ça avait été pensé. Qu'est-ce que le maître du jeu pourrait amener comme indice pour sortir son groupe de la panade, quoi.
Il y a une rejouabilité, il y a des gens qui sont revenus refaire l'escape game une deuxième fois, une troisième fois?
Au moins trois fois. C'est-à-dire que moi, je l'ai animé là pendant 10 jours dans un même lycée, donc j'ai eu toutes les classes et pas mal de profs et de CPE et d'infirmières, enfin voilà. Et il y a des profs qui sont venus trois fois parce qu'en fait, tant qu'on n'a pas fait les trois équipes, on ignore deux tiers du jeu. C'est-à-dire qu'au début, c'était un peu la frustration des gens qui venaient l'essayer. Ils avaient l'impression qu'ils allaient passer partout. Or, vu comment il est conçu, il nous faut déjà deux bonnes heures pour l'animer comme ça. Si on devait faire passer les gens à tous les pôles, il nous faudrait la journée. Donc, on a pris le parti de ne pas faire visiter toutes les pièces à chaque équipe. Donc, il est jouable trois fois, sans aucun ennui ni répétition.
Vous avez fait les premiers tests du coup en 2022. Vous avez fait combien de représentations en tout, si c'est comptable?
Ah oui, c'est comptable. on a fait 6 lycées. Là du coup on va bientôt faire le collège aussi de Florac. On a fait 3 événements grand public et après 8 interventions auprès de futurs professionnels et de santé et travailleurs sociaux. Donc en moyenne, c'est ce qu'on disait, on est à 15 personnes par session de jeu. Et sur les lycées par exemple, Céline va faire passer 3 trois groupes dans la journée. Aujourd'hui, on est à plus de 1000 personnes chez, enfin voilà, qu'on a sensibilisé à la question.
Waouh, je connaissais pas les chiffres.
Moi, je suis tout derrière mon fichier Excel.
C'est et, trop bien les chiffres.
Ouais. Et c'est à peu près, ouais, c'est plus de 500 lycéens. En tout cas, sur la Lozère. Et voilà, autant de lycées privés publics qui ont ouvert leurs portes pour le jeu et qui m'attendent pas. Parce que après, il a été dans la conception, il fallait qu'il soit transportable et facilement adaptable, en fait. Parce que comme il se déplace, il fallait qu'on puisse se retrouver dans n'importe quelle pièce, quoi, et qu'on puisse le monter en peu de temps. Et
c'est quoi les conditions
Alors, 40 mètres carrés, 40 mètres carrés, voilà, une fenêtre au moins, 9 tables, un accès internet, un accès wifi, un accès aussi à un smartphone, parce que ça c'était aussi un choix qui a été fait dans la conception. On utilise pas mal de QR codes dans le jeu, qui ramène à un blog sur lequel il va y avoir des indices, donc c'est le blog du chercheur et enfin, de la chercheuse et du reporter. Et l'idée, ça va vraiment être un questionnement. Moi, je me souviens à la conception de...
On a beaucoup hésité.
Ouais, est-ce qu'on fait mettre le téléphone dans un jeu où justement on rêve d'un monde
meilleur,
sans numérique,
meilleur.
Ou en tout cas avec moins. Et en fait, on s'est dit, on va pas lutter contre, on va faire avec. Et c'est vrai que la plupart des jeunes, enfin voilà, tout le monde est sur son téléphone et on va l'utiliser au contraire comme un outil, comme une ressource.
C'est un outil hyper pratique pour ce genre d'énigme.
Exactement.
Est-ce qu'il y a des choses qui évoluent à chaque fois d'une année à l'autre, d'une représentation à l'autre ?
Alors jusqu'à présent, moi, j'ai l'impression d'être en perpétuel affinage, c'est-à-dire qu'à chaque fois, je me dis « Ah ouais, mais il faudrait faire plutôt comme ça, mais ouais, mais là-bas, pas. » Et il n'y a pas si longtemps, j'ai remodelé la fin en cours de lycée, quoi, parce que ça m'a paraissé important de le faire. Donc, et à un moment, Émilie me disait « Mais Céline, en fait, maintenant, il faut que ça s'arrête. Hein, le jeu est terminé, on arrête de les modifier. » Donc, évidemment, on aurait toujours envie de l'affiner. Évidemment, il est perfectible. Néanmoins, voilà, il fonctionne très bien. Et c'est vrai que par contre, on se régale dans l'adaptation des formats en fonction des publics. Du coup, on est quand même en réinvention permanente de qu'est-ce qui serait pertinent, qu'est-ce qui aurait du sens, dans quel sens, voilà, qu'est-ce qu'on met en avant pour telle et telle personne.
Mais du coup, c'est un peu l'objet aussi, je me dis, à la suite de la formation. Donc, on a des animateurs du territoire qui vont se former à l'outil. C'est après, effectivement, de les réintégrer et à force qu'ils soient utilisés. On avait déjà eu des pistes d'amélioration, genre par exemple, dans la salle de bain, on parle pas de tout ce qui est protection périodique. Et il y a un véritable enjeu pour les jeunes aujourd'hui de comprendre ce à quoi ils s'exposent, que ce soit avec les tampons ou avec les serviettes hygiéniques. Et c'est vrai que c'était un choix qu'on a fait de pas mettre au début, et peut-être qu'à terme c'est quelque chose qui sera par exemple dans le jeu, mais voilà, c'est des choses qu'il faudra re-questionner après, quand il sera vraiment conçu et que chaque animateur puisse amener un peu sa touche, en fait, sa petite patte, mais que dans la structure, le fond, l'ossature, comme tu disais, faut qu'elle soit figée, parce qu'en fait tout est lié, hein. C'est-à-dire que si on a utilisé tel produit, c'est parce qu'il a un rôle dans l'énigme. Donc si on change ce produit, on l'a vu sur les cosmétiques, on a un graphe. Si on change un des produits, ça modifie complètement l'énigme. Et donc du coup, ça veut dire faut se re-questionner derrière sur qu'est-ce qu'on va faire. Donc c'est du temps de travail.
Et on en a déjà passé un paquet.
Plus de, je sais plus, j'avais calculé. C'est une année, mais c'est pas une année
continue. Hein,
continue,
on a pas fait
voilà.
Que ça, quand même.
Mais je crois que quand même globalement, on était à 5 mois bout à bout, 5 mois de travail à 35 heures, quoi.
En tout cas, l'Escape Game, il revient ce week-end pour le Floracopolis. Est-ce qu'il reste des places pour s'inscrire?
Ben c'est une très bonne question, c'est pas nous qui gérons l'Orga, du coup je ne sais pas du tout, c'est le festival. En tout cas, nous on leur a dit 15 max, et minimum 9, parce qu'en dessous de 3 par équipe, ça ne peut pas fonctionner. Enfin, c'est quand même moins le fun.
Voilà, il y a quand même 3 passages dans la journée.
Donc c'est le samedi.
C'est le samedi, voilà, donc je pense qu'il y a de la place, hein, 3 fois 15... 45. On vient en vie à Florac, bon, ça devrait passer.
Et sinon, si des gens ont envie de participer, qui ne sont pas là ce week-end, comment ils peuvent le retrouver dans l'année?
Ben là, justement, on est en train de faire des demandes de subventions parce qu'il y a quand même des politiques publiques qui sont menées à l'échelle nationale et régionale sur les perturbateurs endocriniens. C'est pas des trucs où on est vraiment un des États en France qui sont assez avancés sur ces thématiques. Et donc, on a ce qu'on appelle des plans nationaux de santé environnement et des plans régionaux de santé environnement, donc en Occitanie. Et là, donc, il y a un appel à projet qui est sorti. On va baliser justement quelles sont les cette année, enfin pour les trois prochaines années, puisque ce sont des plans qui sont sur trois ans, quels vont être les axes de réflexion. On sait que les perturbateurs endocriniens sont la proue un peu là pour les trois prochaines années. Et donc, on va déposer un dossier. Et l'idée, c'est de pouvoir continuer à financer des animations gratuites dans des événements. Par exemple, on a été au Salon de l'Artisanat Nature organisé par le CMA cette année. On a été aussi aux Assises de l'Alimentation organisées dans le cadre du PAT du département. Et l'idée, c'est de pouvoir vraiment continuer ces actions. Donc, c'est ce qu'on cherche à faire financer. Donc, j'espère que d'ici les trois prochaines années, je pourrai dire, sur des événements grand public, gardez l'oreille ouverte et on sera partout. Ou dans les lycées, vos ados vont pouvoir suivre le jeu. Mais pour le moment, j'ai pas de pistes.
En tout cas, maintenant, avec l'expérience que vous avez acquise en créant cet outil Escape Game, est-ce que il peut être réadapté à d'autres thèmes, l'appliquer à d'autres thèmes complètement extérieurs aux perturbateurs endocriniens sans prendre autant de temps de recherche et de création?
Alors moi, j'ai plein d'idées, parce qu'il y a plein de trucs. Quand je suis dans les lycées, je me dis « Ah ouah, faudrait que je leur parle des ondes, ce serait trop important, oh l'exposition !» Voilà, donc il y a plein de choses à dire pour aider les jeunes à faire face au monde dans lequel nous vivons. Néanmoins, je pense pas que ce soit transférable. Après, c'est des mécaniques du coup qu'on a dans la tête, et peut-être cette expérience nous aiderait pour la prochaine, mais ça me paraît pas... Il faudrait refaire le chemin de réflexion, évidemment.
Si aujourd'hui vous deviez le refaire, vous ferez différemment peut-être aussi même celui-là?
Pas non. Alors moi je trouve que quand même non. Moi je trouve ça.
On a bien réfléchi. On a fait des résidences. On s'est bien posé pour ça. En tout cas, par contre, il y a des mécaniques de jeu qui sont, qu'on va retrouver dans beaucoup d'escape games. Ils ont beaucoup utilisé un site qui s'appelle Escape. Ce sont des enseignants qui souhaitent un peu transmettre différemment les informations, et du coup ils ont créé ce site internet sur lequel on a plein de ressources pour pouvoir créer des escape games. Et voilà, il y a des petites énigmes, des petites choses qu'on va retrouver dans beaucoup d'escape games qu'on a diffusé dans le nôtre. Mais après, enfin, c'est tout un scénario. Du coup, en fait, c'est pas du tout transposable. On s'est vraiment pris la tête sur l'histoire, comme il disait, le storytelling. Qu'est-ce qu'on va raconter aux gens et où est-ce qu'on veut les amener? Donc, je pense que c'est un jeu à refaire à chaque fois.
Par contre, ce qu'on peut peut-être garder, enfin moi ce que j'ai dans la tête et qui a été notre trame de fond, et parce que c'est un peu notre philosophie aussi, c'est essayer de mettre en perspective le monde tel qu'il était il y a moins de 100 ans et le monde d'aujourd'hui, et rappeler aux jeunes qu'en fait il y a des gens qui ont vécu avant nous dans des conditions extrêmement différentes. Le monde a changé tellement vite que c'est difficile à appréhender pour des gens qui sont nés dedans, et leur rappeler en fait qu'il y avait du bon sens, des bonnes idées, des bonnes pratiques. Et c'est pour ça que notre escape game il est vintage dans sa déco, dans sa conception, dans ses accessoires, pour rappeler qu'en fait il y a peu, le monde était différent et pas si bête que ça, en fait. Et que potentiellement, même si évidemment on est dans l'époque dans laquelle on vit et que l'idée c'est pas de tout jeter ni de tout mettre à mal, mais c'est intéressant de se rappeler qu'on n'est pas de nulle part, quoi.
En tout cas, merci beaucoup de nous avoir présenté ce projet. Dans tous les cas, on se retrouve samedi 3 février à 11h, 14h. On vous retrouve samedi 3 février à 11h, 14h et 17h à la salle Paul Comte. Pour s'inscrire, je crois qu'on peut le faire par mail à l'adresse festivaljeuxflora@mailo.com ou alors directement sur place à la salle du conseil lors du festival. Je fais confiance à Ben pour remettre toutes les infos et quelques docs en ligne si les gens veulent se renseigner sur les perturbateurs endocriniens. Et merci à vous.
Ben merci.
Ben merci à toi.
Ouais.
Mais oui, évidemment que tu peux compter sur moi, Léo. Merci beaucoup. Et voilà, c'est la fin de cette matinale. On se retrouve lundi. Il me reste à vous souhaiter une excellente journée. Restez bien sur Bartas, on n'y est pas trop mal. Passez une excellente journée. Ciao. On se quitte avec, tiens, Barbara, du bout des lèvres.
Dites-le-moi du bout des lèvres, je l'entendrai du bout du cœur. Vos cris me dérangent, je rêve, je rêve. Oh, dites-le-moi doucement, murmurez-le-moi simplement. Je vous écouterai bien mieux, sans doute. Si vous parlez du bout des lèvres, j'entends très bien du bout du cœur. Et je peux continuer mon rêve, mon rêve. Que l'amour soit à mon oreille, tout comme le chant des abeilles. En été, un jour au soleil, au soleil. Regardez dans le soir qui penche, la pince au poilier qui balance. Quelle est jolie sa voile blanche qui danse. Je vous le dis du bout des lèvres, vous m'agacez du bout du cœur. Vos cris me dérangent, je rêve, je rêve. Venez donc me parler d'amour, à voix basse dans ce contre-jour. Et faites-moi, je vous en prie, silence. Prenons plutôt au soir qui penche, la pince au poilier qui balance. Quelle est jolie sa voile blanche qui danse. Je vous dirai du bout des lèvres, je vous aime du bout du cœur. Et nous pourrons vivre mon rêve,